LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Soyez témoin, une émission d'André Gillois.
Le mois de juin est fertile en anniversaire, et il y en a un qui est particulièrement glorieux, c'est celui de la signature du traité de Versailles qui eut lieu il y a 37 ans, le 28 juin 1919. Nous allons donc évoquer cet événement en recueillant les témoignages d'un certain nombre de personnes. Et d'abord, nous allons entendre Madame Louis Mercier, qui est devant moi dans le studio, et qui m'avait décrit non pas qu'elle avait assisté à la signature du traité de Versailles, mais qu'elle était ce jour-là dans le parc.
Nous nous promenions avec une foule très heureuse sur ces terrasses, dans ces jardins. Et je pense que c'était un jour tellement merveilleux qu'il y avait dans ces gens qui étaient des gens ordinaires, des gens comme tout le monde.
Vous vous promeniez, dites-vous, dans le parc de Versailles, mais vous saviez bien que ce jour-là, on signait le traité de paix.
Oh, bien sûr, mais nous avions des cartes, on n'en savait pas ça à cartes.
Ah bon ?
Vous étiez des privilégiés.
Ah ben, bien sûr, nous étions des privilégiés.
Alors,
nous étions beaucoup de privilégiés.
Ben oui, bien sûr.
Bon, vous étiez donc entré dans le parc avec vos cartes, et alors vous avez regardé et vous n'avez rien vu.
Non, mais tout le monde se tournait vers ces fenêtres éclairées par le soleil et derrière laquelle il se passait quelque chose. Et tout le monde s'espérait que c'était quelque chose de très, très bien, de très, très beau, parce qu'après une juste guerre, on allait avoir une juste paix. Et une juste paix, c'est une paix définitive.
Ben voilà.
Et qu'enfin, cette paix perpétuelle qu'on avait toujours attendue, toujours, eh bien, enfin, on la tenait. Qu'est-ce qu'il a c'était grâce à notre génération. C'était notre génération qui allait enfin cueillir ce fruit merveilleux.
En dehors des fenêtres éclairées par le soleil, qu'est-ce que vous avez vu? La sortie des délégués, non?
Mais même pas.
Mais ils sont pourtant sortis dans le parc.
Mais il y avait beaucoup trop de monde pour les voir.
Il y avait d'autres privilégiés.
Alors, vous avez vu les dos des privilégiés?
Mais on n'a même pas été vers là, nous étions contents avec les autres. Moi, mon mari venait de rentrer, nous étions contents tous les deux, puis voilà.
Ben, c'est pas si mal.
C'est beaucoup mieux. Bon.
BBC, accord de paix pour l'Irlande du Nord, le 10 avril 1998.
Giving simultaneously with this final session of the talks. Let's just see if we can pick up the sound.
J'espère qu'on va avoir le son.
No, there is no sound, I think.
Je crois qu'il n'y a pas de son.
Hisser les drapeaux blancs. Comment faire la paix? Marie Chartron, Franck Lilin. Aujourd'hui, la paix est déclarée.
But George Mitchell saying to the men
of George Mitchell a dit au sujet de la violence, votre voie n'est pas la bonne, et cet accord ouvre le chemin du futur. L'accord obtenu cet après-midi traite de manière juste les questions épineuses des prisonniers, du maintien de l'ordre et du démantèlement. Cette question du démantèlement qui a presque failli faire échouer l'accord à la dernière minute. On peut voir les images de Tony Blair et Bertie Ahern. Je crois qu'on a encore des problèmes de son. Mais Robin Oakley, le rédacteur politique de la BBC, est en studio avec moi. Pourriez-vous nous faire une analyse politique de ce que nous sommes en train de voir à l'instant? C'est la chose la plus excitante. Robin, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'on peut maintenant écouter le Premier ministre.
Nous y voilà. Le grand jour est arrivé. Celui dont la date sera inscrite dans les manuels d'histoire, qui sera peut-être commémoré pour qu'on se souvienne à quel point nous avons désiré la paix. Après la brutalité des combats, après le labeur des négociations qui peuvent se prolonger pendant plusieurs années en coulisses, nous partons dans les archives à la recherche d'un moment très particulier, réglé par des rituels millimétrés, la signature des accords et des traités de paix. Que reste-t-il de ce moment suspendu ? Que peut-on ? Que veut-on en montrer ? Que faut-il dire ? Quel geste faut-il faire pour exprimer la valeur symbolique de l'instant ? En compagnie de l'historien Nicolas Offenstadt, qui a exploré les manières de faire la paix au Moyen-Âge, mais également travaillé sur la Première Guerre mondiale et l'histoire plus récente de l'Allemagne, nous scrutons quelques-unes de ces cérémonies. Mais retour au discours des premiers ministres anglais Tony Blair et irlandais Bertie Ahern en 1998.
C'est le début d'un processus de changement où les gens vont pouvoir se mettre à travailler ensemble. Mais cela ne fonctionnera pas si les gens ne le veulent pas sincèrement. J'insiste sur le principe du consentement, sur ce que les gens vont faire, le futur qu'ils vont construire. Mais aujourd'hui nous donne une chance d'espérer. Ça n'a pas été simple. Mais je suis sûr que ma mère serait ravie de constater que nous avons finalement pu avancer.
Ce moment de la fin des négociations, le moment où le traité est définitivement scellé, ou en tous les cas où est-ce qu'on arrive à un résultat, c'est quelque chose de très important parce que la paix n'est pas simplement une affaire technique, d'abord au Moyen-Âge, mais même après, c'est qu'elle doit s'adresser ensuite aux peuples, qui sont ceux qui ont subi la guerre ou qui vont profiter des bienfaits de la paix.
Nicolas Offenstadt.
Donc du coup, la négociation, le point final de la négociation, le moment final, est quelque chose d'extrêmement ritualisé parce que c'est pas simplement une affaire technique. Et c'est pas simplement une affaire entre négociateurs, mais ça doit s'adresser au peuple. Puisqu'ensuite, il y a évidemment des proclamations. Et donc ces proclamations, elles vont avoir différents éléments. Alors au Moyen-Âge et encore ensuite, le roi ou le souverain ou le dirigeant est souvent un roi de paix. C'est-à-dire qu'il doit se montrer comme un souverain qui est attentif à ce que son peuple ne souffre pas des misères de la guerre, n'en souffre pas trop longtemps, ou s'il en a souffert, c'est pour des raisons bien spécifiques. Autrement dit, il y a une figure qui est absolument fondamentale à déployer, c'est celle du roi de paix. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va pouvoir se faire au moment où le traité, où la négociation arrive à terme, où elle a été signée. Et donc ce moment-là est clé, parce que c'est le moment où le roi dit « ben voilà !» Moi, je suis le roi de paix, je suis le souverain de paix, j'ai fait ce traité, donc vous allez l'entendre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant au Moyen-Âge, c'est que ces traités étaient lus en place publique, dans tout le royaume, c'est-à-dire qu'il y a des messagers qui étaient envoyés dans tous les royaumes, pour faire lire les textes de paix, les traités de paix des souverains. Donc c'était pas juste une affaire. On dit souvent, évidemment, que le souverain, c'est une forme de gouvernement absolu, qui n'a pas de lien avec le peuple, c'est faux. Et c'est le déploiement de cette parole de paix, il est très important. Et donc on faisait très attention à ce que les messagers et ensuite les crieurs racontent les négociations. Donc vous voyez, le rituel, il est au moins double, et ça c'est fondamental. Il y a le rituel, la négociation entre les grands, c'est-à-dire tout un ensemble d'éléments, je vais y revenir, et puis il y a face au peuple, où on montre et on déploie sa figure. Alors soit c'est les négociateurs qui reviennent, on pense à Daladier qui revient des accords de Munich, qui est accueilli par la foule, donc c'est toujours cette idée quand même qu'il doit y avoir un lien entre la paix et la manière dont vous allez raconter, dont vous allez la donner.
On la donne donc à un peuple, mais dans un premier temps à un public plus restreint, présent le 14 décembre 1995, jour de la signature de l'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine, dans les rues de Paris.
Nous sommes venus spécialement, on n'aurait jamais raté ça, pas une bonne Française. J'ai vu des personnes extraordinaires, pleines de bonne volonté, qui vont certainement traiter le jour d'aujourd'hui comme un nouveau-né. Monsieur Clinton, le chancelier Kohl, qui est venu très... Voilà, vous pouvez le dire à la dame.
Le chancelier Kohl est venu nous serrer la main. Et nous sommes ravis de cette journée historique.
Vous n'avez pas trop froid? Vous avez oublié le froid?
On oublie, on pense plus au froid quand c'est comme ça. Non, non, non.
D'autres ont préféré assister aux Invalides au ballet des hélicoptères, digne d'une grande mise en scène hollywoodienne. Mais pour la photo souvenir de Bill Clinton, c'est raté, surtout pour celles qui n'avaient pas de téléobjectif.
Je suis venue exprès parce que j'habite à côté. J'espérais voir le président américain, mais bon, et peut-être est-il déjà parti, on ne sait pas. Voilà. Donc, on a vu des gens passer, mais on ne les connaît pas forcément. On voit les drapeaux, on ne sait pas non plus à quoi ils correspondent. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a comme ça des chefs d'État qui viennent, on vient voir, ça nous amuse.
Souvenir de la signature du traité de Versailles, le 13 juin 1956, Lucien Plaute.
Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Lucien Plaute.
C'est comme chauffeur militaire que j'ai assisté à Versailles à la cérémonie de la signature de la paix. À cette époque, il faut se rappeler que la voiture personnelle n'existait plus. Un parc automobile avait été créé, avenue Clichy, pour tous les services dépendants de la présidence du Conseil. Ministre, secrétaire d'État, ambassadeur, chef d'État étranger, relevaient de ce service pour avoir voiture et chauffeur militaire. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de personnalités qui ont assisté à cette cérémonie. Mais j'abuse à remuer tous ces souvenirs et, pour en revenir au 29 juin, j'étais désigné depuis plusieurs semaines au service du ministre de Roumanie en France, M. Antonescu. Pour Versailles, l'itinéraire avait été jalonné de Paris par Saint-Cloud, son parc, ville d'Avray. Il y avait tout au long de cette route un monde fou, autant qu'au retour d'un tour de France. Le service d'ordre, un garde tous les 20 mètres environ, contenait les personnes regardant le défilé des officiels. Chaque voiture avait son fanion national, et c'est ainsi qu'avec le drapeau roumain, des gens criaient à notre passage « Vive la Chine! Vive l'Italie! Vive le Japon! Vive le Brésil !» Mais en entrant dans la cour d'honneur du château, la grandeur de cette cérémonie m'apparut. Silencieux, formant le coré, des centaines d'officiers, choisis parmi ceux les plus décorés de la guerre, saluaient de l'épée les plénipotentiaires. Ceux-ci montaient à la galerie des glaces, et nous allions ranger nos voitures en bataille face à la perspective du parc. C'est là qu'un invité nous fit remarquer une Rolls-Royce et nous demanda à qui elle appartenait. C'est celle de M. Clemenceau. Comment? Il se sert d'une voiture anglaise. Mais alors, l'industrie française, que va-t-elle devenir? Etc., etc.
Notre ami Claire Guyot, qui a déjà bien voulu plusieurs fois nous apporter son témoignage sur des événements précédents, vient aujourd'hui nous parler de la signature du traité de paix, signature à laquelle, naturellement, il a assisté en tant que journaliste.
Clemenceau avait décidé d'aller se rendre compte des préparatifs et de l'installation de la galerie des glaces pour la grande séance. Il était accompagné du président Wilson, de M. Balfour, de M. Sonnino et de Matsui. Clemenceau avait dit qu'il arriverait à 2 heures. Il était reçu par M. Nolac, qui était alors conservateur du musée de Versailles, et Wilson est arrivé plus tard. Clemenceau était d'une humeur charmante, mais il vous donnait l'impression de venir là avec l'intention très nette de regarder tout avec l'œil du maître. Il y a eu pendant longtemps, au garde-meuble national, des fonctionnaires qui se sont souvenus de cette visite. Le premier affolement du vieux tigre a été de voir qu'on avait placé dans cette salle de la Galerie des Glaces des fauteuils en pile pour les officiels. Quand il a vu ça, Clemenceau a levé les bras au ciel en disant « C'est désastreux, c'est navrant ». Il avait trouvé aussi étrange un certain tapis couleur feuille morte dont on avait recouvert la table d'époque Louis XV, n'est-ce pas, sur laquelle les plénipotentiaires devaient signer. Sur ce même tapis, on avait déniché aux affaires étrangères un extraordinaire encrier style moderne, n'est-ce pas, qui détonnait de façon effroyable dans ce cadre merveilleux. Et alors là, quand Clemenceau a vu ça, il a dit « Ah non, pas ça! Il faudra en apporter un autre. » Et il a immédiatement fait emporter le machin. Clemenceau était toujours seul. Wilson est arrivé avec un bon quart d'heure de retard. On a vu Wilson traverser toute la galerie des glaces, il n'avait jamais visité le palais de Versailles. Il a traversé cette merveille, cette pièce merveilleuse, en regardant le bout de ses pieds. Clémenceau se rendait compte qu'il restait complètement indifférent à tant de splendeur. Et alors, fallait voir la tête de Clémenceau balançant ses bras en disant « C'est navrant, c'est navrant !» La table sur laquelle les délégués allaient signer était en face d'une autre table où avait pris Clémenceau, qui avait à sa droite Wilson, à sa gauche Lloyd George et puis tous les autres. Et puis alors tout le monde, en principe, répartit dans un ordre strict, mais en réalité, dans la plus grande pagaille, n'est-ce pas ? Parce que chacun avait cherché à se débrouiller, à se rapprocher, et puis le contrôle, tout contrôle, était impossible.
Alors il y a question qui est fondamentale finalement dans le moment de la signature ou de l'entente, en tous les cas les dernières phases de la paix, c'est l'attitude émotionnelle des protagonistes. Ça peut être les ambassadeurs, les ambassadrices, ça peut être pour le Moyen-Âge, ça peut être les dirigeants eux-mêmes. Et donc du coup, cette grammaire émotionnelle, évidemment, elle est très importante pour deux raisons. La première raison, évidemment, c'est que c'est un déploiement des émotions qui est public. Il ne s'agit pas d'émotions intimes, ça, éventuellement les diplomates vont en parler dans leurs souvenirs, mais quand il y a la signature d'un traité, et ça c'est valable depuis le Moyen-Âge, il y a un moment, évidemment, qui est éminemment public, qui est vu, alors soit qui est vu par les chroniqueurs au Moyen-Âge, soit qui ensuite va être vu par les différents médias qui vont se succéder, ça pourra être les photos, puis ensuite ce sera la télévision, ça peut être la radio, et donc du coup l'émotion du protagoniste, évidemment, elle est centrale parce qu'elle va dire quelque chose sur la paix. Et dans le fond, ça remonte à quelque chose qui est assez fondamental, c'est l'idée de dire que la paix réelle doit correspondre à la paix du cœur. C'est une vieille idée chrétienne qu'on va trouver dans les textes médiévaux. C'est-à-dire, quand vous faites la paix, il faut qu'elle vienne pas seulement de la réalité politique, des rapports de force, mais elle doit venir du cœur, et les chroniqueurs, les analystes, la littérature politique, depuis le Moyen-Âge, dit qu'il faut qu'elle concorde, en quelque sorte, entre l'intériorité des émotions et ce que vous êtes en train de faire. Sinon, c'est une fausse paix, c'est une mauvaise paix, si la paix réelle ne correspond pas à la paix du cœur. Et donc, du coup, si c'est une paix qui vient du cœur, elle doit s'exprimer par des émotions qui doivent être la réalité. D'ailleurs, on s'interroge souvent. On s'est interrogé, même lorsque Helmut Kohl et François Mitterrand se sont pris la main, on a dit spontanément à Verdun, on s'est demandé, mais est-ce que c'est une forme de surgissement des émotions ? Hein, où finalement la France, l'Allemagne, incarnées par leurs dirigeants, font la paix devant le monde dans les années 80, évidemment, à nouveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du cœur, spontané, ou est-ce que c'est une gestuelle, finalement, théâtrale, pour mettre en scène ? Donc, vous voyez, cette question-là, elle est fondamentale, parce que face au public, face aux spectateurs, c'est toujours l'idée de la vraie paix. Cette paix qui mettrait en accord les émotions et ce qui se passe réellement, soit dans la signature d'un accord, soit simplement dans une rencontre diplomatique ou internationale.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
Et d'ailleurs, quel lieu choisit-on pour signer la paix ? Est-ce qu'on entend rompre avec le passé, ou comme à Versailles, le rappeler lors de la signature ? Est-ce que, pour une paix exceptionnelle, on choisit un lieu inédit ? Est-ce qu'on répète des gestes séculaires ? Est-ce qu'on tente d'en inventer de nouveau pour ne pas répéter un échec ? Loin des ors et de la galerie des glaces du château de Versailles, Israël et la Jordanie signent un traité de paix le 26 octobre 1994 dans la vallée de l'Araba, à la frontière entre les deux pays, en présence du président des États-Unis et du ministre des Affaires étrangères russe. La cérémonie, qui dure 1h20, est filmée et librement accessible dans les archives de la Maison-Blanche. Le paysage est désertique. et la signature se déroule comme un curieux et très long ballet, muet. Entrecoupé par l'annonce au micro en trois langues, hébreu, arabe et l'incontournable langue de la diplomatie, l'anglais, des différentes étapes de la cérémonie et de ses protagonistes.
Sayyidati sadati, jalalatul malik al-Hussein al-Mu'azzam, malik al-Mamlakat al-Urduniyat al-Hashimiyya, yatahaddathu ilayna.
גבירותיי ורבותיי, הגיע פרק הברכות והנאומים.
Diplomates, dignitaires religieux, différents corps de l'armée défilent lentement à tour de rôle sur une scène en plein air, derrière laquelle se dresse une rangée de drapeaux et au loin, la chaîne des montagnes. Il se passe étonnamment peu de choses. Le vent très fort couvre les voix du public et les échanges hors micro des diplomates et des chefs d'État.
Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
On les voit alternativement se lever et s'asseoir, s'incliner pour accueillir un homologue, se serrer la main, se serrer dans les bras, s'offrir des cadeaux, bref, se toucher et se sourire en déclinant toute une grammaire émotionnelle commune à la majorité des cérémonies de signature.
It's a pleasure to see the United States and Russia working together. It wasn't always the case.
C'est un plaisir de voir les États-Unis et la Russie ensemble ici. Cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. Voici une nouvelle édition que nous accueillons de tout cœur.
Welcome to the club. The sooner, the better.
Bienvenue au club. Le plus tôt sera le mieux.
Allow me to end.
Permettez-moi de terminer avec ces simples mots.
Shalom, salam, peace.
Alors là où quand même il y a une histoire, une historicité, c'est qu'évidemment ces émotions ne sont pas les mêmes au XXe siècle et au XVe. Et donc, il y a une grammaire, vous employez le terme de grammaire émotionnelle, c'est tout à fait juste, il y a une grammaire des émotions, dont on attend qu'elles correspondent plus ou moins à la réalité de ce qui est négocié. Et parmi cette grammaire des émotions, au Moyen-Âge, les larmes des protagonistes, y compris des princes, y compris de ceux qui sont censés être les guerriers les plus virils, sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'on considère que dans ce grammaire des émotions, les larmes sont un signe, en quelque sorte, de sincérité, d'une certaine manière de validation. C'est presque une ratification du traité que de pleurer, parce que c'est montrer que ce traité, il vient véritablement du cœur, et que donc il s'exprime par les larmes. C'est quelque chose qui va évoluer. Mais on voit quand même que le geste émotionnel, quand même, est central dans la démonstration de la paix jusqu'à aujourd'hui. Regardez dans le cas d'Yitzhak Rabin et d'Arafat, regardez le cas de Kohl et de Mitterrand, dans la réconciliation, le geste d'agenouillement de Willy Brandt à Varsovie. Donc on est quand même aujourd'hui, avec la télévision, puis ensuite avec le web, l'idée du geste émotionnel qui dit quelque chose sur la paix n'est pas abandonnée. C'est plus la même grammaire, les choses évoluent évidemment, ensuite les discours qui vont être tenus. Et évidemment, le rôle de l'historien ici est de se demander évidemment aussi la part de mise en scène. Parce qu'on ne peut pas imaginer, déjà même au Moyen-Âge, hein, il y avait un espace public, mais encore plus quand on sait qu'il y aura la télévision, qu'il y aura des relais, que les dirigeants n'anticipent pas. Et pour reprendre le cas du geste de Kohl et de Mitterrand à Verdun, on sait quand même, notamment, c'est ce que raconte Roland Dumas dans ses mémoires, qu'il avait quand même l'idée de faire quelque chose. Alors ça n'empêche pas l'émotion. Mais vous voyez, on savait qu'il faudrait qu'il y ait un geste significatif qui dise que cette rencontre avait une puissance particulière. Donc, du coup, il y a toujours une articulation en diplomatie qui varie selon les époques entre le moment, avec une émotion qui est produite, hein, il ne s'agit pas de la nier, et l'idée quand même préalable d'un régisseur qui réfléchit à la manière dont cette mise en scène va être faite. Et tout le travail de l'historien, c'est de voir un peu comment s'articule la mise en scène préalable et l'émotion qui va être exprimée publiquement. Pour le Moyen-Âge, il y a des débats qui commencent en disant « tout est une mise en scène, tout est réglé. La moindre émotion, le rire, les larmes, la joie, c'est en réalité quelque chose qui est prévu. » D'ailleurs, on arrive, même dans certains contes médiévaux, on dit « il faudra déclencher des feux de joie et que tout le monde soit content. » On paye les gens pour être contents. Et donc, tout l'intérêt de discussion, c'est de savoir dans quelle mesure l'organisation et la mise en scène des émotions peut quand même correspondre aussi à quelque chose d'intérieur et comment les deux s'articulent.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
it's a great day.
C'est un grand jour.
It's a great hope.
C'est un grand espoir.
It's a moving occasion.
C'est un événement émouvant pour beaucoup d'entre nous.
Now,
nous en avions rêvé, il est devenu réalité. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, c'est le début d'une nouvelle coopération.
Let's dream together.
Rêvons ensemble. Nous en avons désormais le droit.
On fait la paix, bien sûr, avec l'adversaire pour réorganiser les rapports de force, pour faire cesser la guerre. Mais il y a souvent la démonstration aussi qu'on doit faire vis-à-vis de son propre peuple, des gens qu'on gouverne. Et donc, dans cet aspect-là, évidemment, la mise en scène des émotions est centrale. Et donc, du coup, en fonction des médias, c'est quelque chose qui est pensé. Et encore une fois, on pourrait se dire, oui, mais ça va arriver à partir du moment où il y a la télévision. C'est pas vrai. Parce que, au Moyen-Âge, il y avait toute une mise en scène de l'annonce de la paix qui était souvent aussi importante que la paix elle-même. Je vous donnais un exemple. Pendant la guerre civile du début du XVe siècle, entre les Armagnacs et les Bourguignons, passons sur le contexte. Les paix se succèdent à un rythme très rapide. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrive pas à s'entendre. On fait la guerre. Il y a des tas de paix qu'on appelle fourrées. Fourrées parce qu'en fait, elles ne mènent à rien. Et pourtant, ces paix sont fourrées. Tout le monde sait très bien qu'on ne va pas s'entendre. Tout le monde sait très bien que la guerre ne va pas cesser. Mais pourtant, à chaque fois, il y a un déploiement de l'annonce de la paix, des fêtes de la paix, qui est très important. Vous voyez, dès le Moyen-Âge, il y a l'idée de dire on fait aussi la paix pour la montrer, pour montrer qu'on est un bon souverain, qu'on est attentif aux souffrances de son peuple. Et donc, du coup, la médiatisation de la paix, la médiatisation des accords de paix, et ça va continuer en partie à l'époque moderne, c'est quelque chose qui est pensé déjà à l'époque, indépendamment du contenu de la paix, même si la paix n'arrête pas la guerre. Donc vous voyez, évidemment, les médias ne sont pas les mêmes, ce sont les crieurs publics, ce sont les affiches, ce sont les feux de joie, ce sont les cloches, qui vont d'ailleurs continuer à jouer un rôle, y compris jusqu'aux périodes les plus contemporaines, mais il y a déjà cette mise en scène qui ensuite, évidemment, va se redoubler, va changer encore avec les différents médias qui vont se succéder, donc la presse, la radio, la télévision, le web. C'est quelque chose qui va devenir même assez iconique, hein, puisque en histoire, beaucoup d'images de paix aujourd'hui, on pense à cette poignée de main de Kohl et Mitterrand, sont des choses qui finalement gardent une puissance presque indépendamment du contexte. Ou cette fameuse, ces liens entre Rabin et Arafat, tout ça, plus personne ne sait exactement ce qui a été négocié. Vous montrez la photo Kohl et Mitterrand, on ne sait pas non plus forcément dans quel contexte, mais cette idée qu'il y a des images, des émotions, des gestes de paix, finalement, qui finissent par l'emporter sur leur signification, surtout quand, en plus, la guerre a continué. Donc, vous voyez, c'est une dimension qui est quand même très fondamentale, à la fois la mise en scène des émotions, la manière dont c'est pensé, la manière ensuite dont c'est diffusé, et la manière dont, finalement, les gestes de paix ont une forme d'autonomie par rapport à ce qui se passe, parce que ça signifie quelque chose de plus.
Album photo. Été 1954. Le président du Conseil, Pierre Mendès France, et le premier ministre chinois, Chou Enlai, se serrent la main sur un perron en Suisse. Septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrent la main sur la pelouse de la Maison Blanche, comme embrassés par le geste bénisseur d'un Bill Clinton souriant entre deux. D'ailleurs, la présence du médiateur est souvent visible sur les photos immortalisant l'instant de paix. Mais retour dans le désert entre Israël et la Jordanie, où l'on retrouve une partie des protagonistes susnommés, dont l'omniprésent Bill Clinton de la décennie 90.
The President of the United States of America, William Jefferson Clinton.
Thank you. King Hussein,
Roi Hussein,
President Weizmann,
Président Weizmann, Premier ministre Rabin,
Prime Minister Rajali,
Premier ministre Majali,
Crown Prince Hassan,
Prince Hassan,
Foreign Minister Perez,
Ministre des Affaires étrangères Perez, Ministre Kozirev,
Secretary of State,
Secrétaire d'État.
The people of Jordan and Israel,
peuple de Jordanie et d'Israël,
with a special thanks to those who are our cheering section up there,
et en particulier tous ceux qui nous acclament là-bas,
we thank you
nous
all.
Vous remercions tous.
Souvenir de la signature du traité de Versailles. André Dantan, 1956.
Je tournais à la main, j'avais un appareil pâté dont j'avais pris des précautions de prendre un pied assez haut, c'est-à-dire un pied de studio Gaumont, et je pouvais donc avoir la possibilité de passer au-dessus des personnes qui étaient assez près de la caméra. J'étais à quelques mètres de la table de la signature.
Oui.
J'en ai tourné 350 mètres, monsieur Gillois, à cette époque-là, nous tournions à 16 images.
Oui, ça faisait beaucoup.
Alors, ça faisait beaucoup.
Oui.
J'avais un peu mal au bras parce que, malgré tout, 350 mètres, il fallait que je puisse charger mon appareil assez rapidement.
Oui. Et alors, vous avez filmé quoi ? La signature elle-même ?
J'ai filmé la signature, j'ai filmé les personnalités, c'est-à-dire la partie du discours, les personnalités qui sont venues signer le traité de paix. Oui. J'ai eu le temps de pouvoir changer d'objectif, car l'objectif se dévissait à cette époque. Il fallait dévisser un objectif, en revisser un autre. Et j'ai fait des documents qui m'ont permis, comme vous avez pu le voir, sur la table de signature, où j'ai pu tout de même me rapprocher sans bouger ma caméra en changeant d'optique.
La guerre de 14-18, c'est une guerre qui, contrairement aux suivantes, n'a pas été seulement médiatisée par les images. C'est une guerre dont finalement, en tous les cas, d'abord pour les contemporains, dans l'entre-deux-guerres, encore longtemps, elle passe largement par la littérature et encore par l'écrit. L'idée de l'image de guerre, et encore plus du film de guerre comme on va avoir ensuite pour le Vietnam, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas encore en 14-18. En 14-18, quand vous avez une image, c'est parfois une description littéraire. Hein, c'est les romans à l'époque. C'est Le Feu de Barbus, les Croix de Bois d'Orgelès. En Allemagne, c'est Remarque, c'est Johansen, etc. Hein, donc du coup, il faut bien se mettre dans l'époque. Hein, on n'est pas marqué et frappé uniquement par les images qui circulent. Hein. Il y en a évidemment qui circulent dans la presse, des photographies. Mais on a tout autant à l'époque des textes, des poèmes chez les Anglais ou voilà, chez les Français, chez les Allemands. Il y a les textes de Robert Graves, etc. Donc cette idée que la guerre de 14 est médiatisée par l'image, il faut la nuancer. Elle passe aussi par l'écrit. Ça n'empêche pas de répondre et de demander ce qui reste du traité de Versailles. Mais là aussi, hein, je pense que l'écrit est encore très important. Alors, il y a quand même quelques images qui sont connues, et c'est évidemment la présence des gueules cassées, donc ces soldats, ces anciens combattants particulièrement abîmés, défigurés par la guerre. Hein, donc, il y avait une délégation des gueules cassées. Donc, c'était le symbole à la fois hein, de cette responsabilité allemande qu'on avait reconnue dans le traité, et aussi évidemment le symbole de la souffrance de la guerre. Donc ça, c'est une image qui est restée, la délégation des gueules cassées à Versailles, et peut-être aussi la peinture. C'est là aussi un média qu'on a oublié, parce qu'évidemment, encore une fois, les images de guerre vont être écrasées par la photographie, puis par le cinéma encore plus, puis par le documentaire. On est dans un monde médiatique hein, qui n'est pas celui des guerres suivantes, qui n'est pas celui de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas celui des guerres coloniales, où la peinture, où l'écrit sont encore des choses qui fixent le regard. Et en tous les cas, il y a au moins deux images. Il y a évidemment cette signature, hein, le tableau d'Orpen dans la Galerie des Glaces, ou cette présence des gueules cassées.
Le jour de la signature du traité de paix à Versailles, il y avait dans la salle 5 mutilés dont Clémenceau avait exigé la présence, 5 gueules cassées, qui étaient assis en face des plénipotentiaires allemands. Ils s'appelaient Hébert, Agoguet, Richard, Cavalier et Jugon. 4 d'entre eux sont encore vivants, et l'un d'eux, Albert Jugon, ancien caporal du 1er régiment d'infanterie coloniale, a bien voulu venir jusqu'ici et nous raconter ce qu'il se rappelle de cette extraordinaire cérémonie. Donc, Monsieur Jugon, vous aviez été désigné pour aller à Versailles. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Mon Dieu, le président Clémenceau, qui a eu tout le temps des attentions particulières pour les anciens combattants et les victimes de la guerre, a pensé qu'il convenait de mettre en face des plénipotentiaires allemands quelque chose qui montre bien ce que la guerre avait laissé comme séquelles et comme, je ne dis pas comme destruction, mais comme souffrance au Tourgueil.
Il y a un élément quand même qui est central dans la paix et dans 14-18 par rapport à ce qu'on va connaître avant, c'est quand même que, sous une forme qu'on peut discuter, mais la guerre va quand même perdre considérablement en légitimité par la violence de ce qu'ont subi les combattants. Donc il y a quand même ce rejet massif de la guerre qui va aller croissant dans les années 20. Au fur et à mesure, on sort du règlement. On est quand même dans un registre du rapport à la guerre et à la paix qui est très différent, il me semble, avec cette présence des gueules cassées.
Les bouquets pour le président des États-Unis, le roi de Jordanie, le président de l'État d'Israël, et le premier ministre de l'État d'Israël seront remis par Eva Smaadi de Jordanie, dont le grand-père est tombé au front pendant la guerre de 67, et par Lilo Tan d'Israël, dont le grand-père est lui aussi tombé pendant la guerre de 67.
Bill Clinton a conclu la longue série d'interventions qui a duré une heure et au cours de laquelle on aura entendu tous les intervenants marteler que cette signature n'était qu'un début et que maintenant il restait aux belligérants d'hier à concrétiser les accords, c'est-à-dire à s'entendre, sans oublier les morts, les blessés, les souffrances, comme l'a souligné le président américain.
Intersoir, le 14 décembre 1995. Signature des accords de paix en Bosnie.
Dans cette construction de la paix, nous avons également entendu les voix tristes des victimes, les enfants dont les terrains de jeu ont été bombardés, les champs de bataille, les jeunes filles violentées, les hommes abattus, dont les corps ont été mis dans des charniers, ceux qui sont morts de faim dans les camps, ceux qui sont morts dans les batailles. Les millions de personnes déplacées, arrachées à leurs familles, même par-delà les tombes, il y a des victimes qui chantent le chant de la paix aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, le temps de la paix est arrivé. Sont invités à la table de signature le Premier ministre d'Israël, M. Yitzhak Rabin, le Premier ministre de Jordanie, Dr. Abdel Salam al-Majali, et à leur côté, le Président des États-Unis, Bill Clinton, le Roi de Jordanie, Hussein Ier, le Président de l'État d'Israël, M. Etzel Weizmann, le Prince Hassan, le ministre des Affaires étrangères, M. Shimon Peres, le secrétaire d'État Warren Christopher, et le ministre des Affaires étrangères de Russie, M. Andrei Kozirev.
Nouvel acte du ballet muet sur fond venteux, la signature proprement dite est très longue. On signe de nombreux exemplaires, petits et épais, puis deux immenses cahiers, difficiles à manipuler, qui tiennent à peine sur la table. Souvenir de la signature du traité de Versailles, M. Clay Guyot, en 1956.
Le jour dit, un camion militaire est arrivé, porteur des fameux volumes, mais il est arrivé en retard, on a précipité les soldats en leur disant « Dépêchez-vous de décharger la voiture parce que les délégués étrangers vont arriver ». On a jeté presque pêle-mêle sur le sol devant l'entrée de Trianon les volumes précieux qui représentaient le travail difficultueux de plusieurs mois. Et comme le déchargement venait de se terminer, la première voiture des délégués est arrivée, on a escamoté la voiture, le camion militaire, et tout le temps du défilé des officiels, on a vu un petit tas de papier, un petit tas de volume,
qui n'ont servi à rien,
qui était là devant la porte de Trianon, qu'on a naturellement recueilli avec soin après et qu'on a distribué en grande pompe aux intéressés.
La question de la matérialité des traités, elle est évidemment très importante parce qu'il y a, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'il y a l'objet matériel du traité, qui parfois, effectivement, a une dimension presque esthétique, avec le scellement, avec l'écriture, avec la signature des protagonistes. Donc, il y a une dimension un peu sacrale, surtout quand c'est un traité qui porte des enjeux extrêmement lourds dans un sens ou dans un autre. Donc, l'écrit une dimension quasi sacrale, à la fois parce que il peut porter la fin des souffrances, il peut porter la triomphe d'un peuple sur un autre. Donc c'est des actes extrêmement importants. Et effectivement, ce qui est très intéressant, et là ça permet des jeux sans fin, c'est que évidemment il y a les exemplaires pour les protagonistes, puis il y a les différentes formes de ratification, puis il y a les copies, puis ensuite il y a les photographies, etc. C'est pour ça qu'il y a toute une diplomatique très précise hein, d'étude des actes, parce qu'il faut savoir à quelle étape du traité on en est. Est-ce qu'on a l'acte original, c'est les protagonistes, ou est-ce qu'on a une copie, est-ce qu'on a une ratification, est-ce qu'on a un acte inséré? Parce que parfois, ils sont enchâssés les uns dans les autres quand il y a plusieurs traités, quand il y a un serment qui jure à différents traités. Donc, il peut y avoir effectivement tout un emboîtement aussi des pièces qui sont aussi des questions de rapport de force, qui montrent aussi la diffusion des traités. Donc, c'est un travail en soi hein, de travailler sur les exemplaires d'un traité, leur diffusion.
Vous vous rappelez comment les choses se sont passées pratiquement? Les gens sont entrés en ordre ou comment?
C'est-à-dire, les délégations, par ordre de délégation, ils ont tous signé, ça a été fort long,
comme il y avait les délégués de toutes les puissances du monde. Alors ça a été fort long, et quand ça a été fini, on a tiré le canon et ça a été tout.
Menu du banquet traité de Versailles. Hors d'œuvre, barre glacée vénitienne, sel de Pauillac moissonneuse, dindonneau à la broche, fond d'artichaut au velouté, mazarine de fruits au kirsch, petit four varié, plateau de fruits, café, fromage, vin, grave et médoc en carafe, volnay, sauterne, redereux frappé, liqueur.
Il est devenu français. Son père est mort en Russie.
Ce fut ensuite l'heure du déjeuner de l'autre côté de la Seine, au Quai d'Orsay, que l'on a rejoint en autocar. Omar Breton et Chapon de Bresse au menu, avant de nouveaux entretiens séparés entre Jacques Chirac et les trois présidents de l'ex-Yougoslavie. En milieu d'après-midi, les Parisiens qui étaient coincés dans leurs automobiles au milieu des embouteillages auront probablement entendu les hélicoptères qui acheminaient les participants jusqu'aux aéroports de Paris.
J'allais à Leningrad, il était mon interprète parce qu'il parlait russe naturellement très bien. Et il m'a dit, voilà la maison.
Ici Londres, 8 mai 1945, Victory Day, le jour de la victoire. Il est 22h et à 15h cet après-midi, par des discours simultanément prononcés à Londres, à New York, à Moscou et à Paris, la paix a été proclamée. Il est 22h et nous vous parlons de Londres, certainement de l'endroit le plus communément choisi par la foule londonienne pour venir manifester sa joie, c'est devant le Palais Royal, devant Buckingham Palace. Je voudrais en quelques mots vous décrire le spectacle prodigieux qui se déroule actuellement sous mes yeux. Le monument de la reine Victoria a été envahi par les londoniens qui, comme des grappes humaines, pendent un peu partout, et spectacle extraordinaire, pour la première fois, les lampadaires de cette place, les lampadaires sont grandement illuminés. Leur lumière crue éclaire la joie des londoniens. Tout Londres est dans la rue. La nuit tombe et les pubs sont pleins. Dans Soho, le quartier cosmopolite de Londres, chacun boit dans la rue sa pinte ou son verre de whisky à la main. Au coin de chaque rue, des chœurs spontanément s'organisent, et si les fausses notes sont nombreuses, l'entrain et la joie entraînent la foule houleuse.
Novembre 1978, Louise Weiss se souvient de la fin de la Première Guerre mondiale.
J'ai entendu, comme tous les Parisiens, les cloches sonner à la volée. J'ai entendu des défilés, des ruées, des flots de gens envahir toutes les artères de Paris et une liesse se déchaîner. C'était la fin des hostilités, la fin des atrocités que l'on avait vécues pendant 4 ans. Alors, je suis sortie dans la foule, comme tout le monde, et j'ai été absolument horrifiée. Tandis que les cloches sonnaient à la volée, on voyait porter en triomphe les gueules cassées, comme des drapeaux, ces loques humaines. On voyait des veuves en théorie, avec leur voile noir. On voyait des orphelins, les pupilles de la nation, et des farandoles autour de ce qui pouvait être considéré comme le fond de la douleur humaine. Et alors tout ce spectacle m'a paru d'une légèreté, d'une sottise, et tellement contraire à la célébration qu'il aurait dû y avoir à cette place, qui était une célébration qui aurait dû s'engager à étudier la connaissance de ce phénomène de la guerre de manière à l'exclure de l'humanité, on y allait de nouveau tout droit. Et je l'avais senti très profondément en participant à cette joie effrénée qui ne me semblait pas de mise.
En fait, Versailles est un traité qui va produire énormément d'émotions. Parce qu'il ne faut pas regarder uniquement le côté français. Versailles est une sanction de la victoire. Et donc, du coup, il y a toute une joie qui va se déployer. On sait que les négociateurs alliés vont être applaudis par la foule à plusieurs reprises, quand ils arrivent, puis quand ils repartent. Donc, il y a quand même une mise en scène à Versailles même, hein, d'une forme de joie. De joie, donc, des populations, comme au Moyen-Âge aussi, il était attendu que les populations montrent leur joie avec la paix, avec une réserve quand même, et ça c'est très propre à la violence de ce qui s'est passé en 14-18, c'est quand vous regardez les proclamations qui sont faites, on demande aux populations, malgré tout, de tenir compte du deuil et de la souffrance qui était, c'est dit clairement sur les proclamations, c'est-à-dire, bien sûr, il faudra fêter cela, mais on peut pas fêter ça comme avant, parce que avec les millions de morts, avec le deuil, les orphelins, les veuves et toutes les souffrances, il y a cette idée qu'on ne peut pas faire une émotion débridée, quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre les suites de 14-18, c'est qu'on n'est pas dans la joie de la victoire uniquement, parce qu'il y a ce poids colossal. Ça, c'est une grande rupture. Et c'est pareil, quand on parle du 11 novembre, on dit c'est la fête de la victoire. Non. Pour les anciens combattants, c'est la violence, c'est le deuil. Et donc, du coup, il y a toujours cette ambiguïté dans la manière dont les émotions sont mises en scène après 14-18. Ça peut être celle, évidemment, du triomphe de ceux qui ont gagné, mais c'est jamais ceux qui ont gagné sans limite. Le fameux traité de Versailles, qui a été tellement considéré par les Allemands comme inique, comme inacceptable, comme un diktat. Ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, après la défaite de la France en 1940, ont cherché à mettre la main sur l'original. Donc on le voit toujours, cette idée quand même que la matérialité écrite reste un enjeu. Ils l'ont trouvé d'ailleurs, après toute une histoire sur la préservation par les autorités françaises en 1939-40 du traité de Versailles. Ils l'ont protégé, mais ils l'ont mal protégé parce qu'ils n'ont pas protégé finalement l'original, qui est tombé dans les mains des Allemands. Et on sait aussi qu'il a même été envoyé à Hitler pour qu'il puisse le voir. Donc d'une certaine manière, vous voyez, ce traité humiliant qui avait été si fondamental dans l'histoire de l'Allemagne, et d'ailleurs si fondamental dans l'accession au pouvoir des nazis, qui avait largement fait l'unanimité autour de la critique du traité de Versailles et de son démantèlement. Donc ce traité, finalement, a fini dans les mains du Führer, puis ensuite il a disparu. Et aujourd'hui, on ne sait pas où est l'original.
Monica McWilliams, 1998.
Les gens en Irlande du Nord se sont toujours dit « Si seulement les politiciens pouvaient s'asseoir autour d'une table, discuter et trouver un accord. » Aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous avons rompu avec la culture de l'échec en Irlande du Nord. Il n'y a pas de retour. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un accord de paix entre les parties. Maintenant, nous devons aller vers le peuple pour que cet accord fonctionne.
Réaction aux accords de paix sur la Bosnie-Herzégovine,
le 14 décembre 1995.
Ma première réaction, c'est que je suis un peu méfiante. Parce qu'après 4 ans, je ne crois pas que la paix soit possible. On verra, mais si c'est le cas, c'est merveilleux. Car c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ceux qui ont connu la guerre.
Je serai très heureux si ça dure. Je l'espère. Ça ne va pas être facile. Il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions accomplir en détail tout ce qui doit être fait.
En Bosnie, la guerre est finie, mais la paix reste à faire. Personne ne doute de l'importance du traité signé ce matin à Paris, mais personne, Ralph Pinto, n'ignore les difficultés qui restent à surmonter sur le terrain.
Aucun président, aucun ministre ou aucun responsable n'a jamais prétendu ce matin que la signature de l'accord, c'était du même coup la paix revenue. On a entendu conférence de l'espoir, souhait de réconciliation. Nous ne pouvons pas garantir l'avenir ou encore la responsabilité finale incombe d'abord aux trois signataires. Et le médicament amer évoqué par le président Izetbegovic est là pour ramener les choses à leur petite mesure. Les 60 000 hommes de la force OTAN ne pourront pas tout. On signe alors qu'il n'y a même pas encore de reconnaissance mutuelle. La paix israélo-arabe, déjà étriquée, devient un modèle en comparaison de l'accord de Paris. Les explosions de Sarajevo cet après-midi, toujours aussi mystérieuses, ne menacent rien bien sûr, mais les horreurs des 3 ans et demi passés expliquent le scepticisme des populations et justifient peut-être du même coup que Français, Américains ou Britanniques réalisent que l'opération en Bosnie est autant un grand saut dans l'inconnu. Bill Clinton ne veut plus, ne peut plus exclure publiquement des victimes dans les rangs de la force internationale. Et comment, à Sarajevo, convaincre les uns, serbes, que ceux d'en face, musulmans, ne vont pas régler des comptes? Comment contrôler les praticiens de la Kalachnikov ou du RPG? On a suffisamment vu et entendu les chefs de guerre de tout poil là-bas. Mais enfin, l'opération est maintenant lancée. Après Paris, ce sera au tour du Conseil de sécurité des Nations Unies d'afficher le feu vert pour l'acheminement de ces 60 000 hommes sur place. Il faudra environ 2 mois et demi. En plein hiver, bien sûr. On a dit que l'opération était la plus importante en Europe depuis la guerre. On doit ajouter la plus aléatoire.
La paix. Un grand saut dans l'inconnu contente dans la mesure du possible d'encadrer et d'affermir. Une fois passé le cérémonial technique de la signature des traités, qui doivent ensuite être ratifiés par les États et acquièrent de cette manière une valeur légale, les mots viennent en renfort. Le discours de paix a presque toujours une portée incantatoire et performative. Que la paix soit. Comme dans ce discours du président Wilson adressé en 1913 aux Nord-Amérindiens, qui n'en étaient d'ailleurs ni à leur premier, ni à leur dernier traité. Le passé, dit-il, est rempli d'heures sombres. L'histoire montre que les colons américains ont souvent défendu avant tout leurs intérêts. Mais il faut reconnaître que les Indiens ont bénéficié des apports de la civilisation, des écoles construites dans leurs réserves, etc. Nous sommes une nation, conclut-il, en affirmant que le Père Blanc reconnaît maintenant les Indiens comme ses frères et non plus comme ses enfants.
Ce que nous essayons de faire, c'est discuter et trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre sans violence. Le futur vous appartient et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à un futur qui vous donne la chance d'avoir une vie meilleure. Je suis très heureuse que vous soyez venus aujourd'hui pour nous souhaiter bonne chance. Et merci beaucoup pour la musique. J'espère que votre voix sera entendue. Nous allons faire tout notre possible.
La cérémonie se terminait. Les fenêtres de la galerie des glaces étaient ouvertes et, seul, restait accoudé à un balcon, M. Brentano, président du conseil roumain, perdu dans ses pensées, songeait sans doute à l'avenir.
Nous en avons terminé avec nos témoins. Je pense que nous n'avons pas à discuter de ces divers témoignages. Ils ne se contredisent pas. Ils évoquent tous, vus sous des angles divers, la journée qui fut sans doute pour notre pays une des plus grandes dates de son histoire et qui serait inoubliable si l'oubli n'existait pas.
À Nicolas Offenstadt. Lecture, Olivier Martineau et Anna Weck. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Laurent César. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. LSD, hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Troisième épisode, la paix est déclarée. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin.